Bonsoir et bienvenue à tous pour cette nouvelle série de cours. Je suis heureux de vous voir si nombreux pour mon premier cours. J'espère qu'il y en aura autant pour le second. Alors avant de commencer, je voudrais expliquer un petit peu pourquoi j'ai souhaité consacrer cette série de conférences à l'Asie. Je vais vous présenter aujourd'hui une introduction, en fait, sous une forme historique, pour vous présenter les découvertes et surtout les chercheurs qui ont travaillé en Asie, qui ont permis de comprendre l'évolution humaine sur ce continent. Et en fait, le message principal que je voudrais faire passer ce soir à travers cette revue historique, ces gens qui ont travaillé parfois dans des conditions difficiles, vous allez voir, ils traversent des guerres, il leur arrive des tas de choses, c'est qu'en fait, l'Asie, c'est un petit peu le palais de la Belle au bois dormant, de la paléanthropologie. Donc c'est un endroit qui a été un endroit presque enchanté, si je peux dire, à la fin du XIXe siècle et pendant la première moitié du XXe siècle, et qui ensuite s'est un petit peu assoupi, finalement. Il y a eu des découvertes qui ont eu lieu après la Seconde Guerre mondiale, ça a continué. Mais dans le fond, à partir de l'immédiate avant-guerre, disons de la fin des années 30, c'est vers l'Afrique que l'intérêt s'est porté. Et aujourd'hui, souvent, quand on parle d'évolution humaine, de nouvelles découvertes, c'est souvent de l'Afrique qu'il est question. Et vous allez voir, ça a des raisons en partie historiques. Pourtant, cette situation, cette prévalence de l'Afrique, depuis, disons, une quinzaine d'années, s'est trouvée rééquilibrée par une remise en route, si je peux dire, de la paléanthropologie asiatique. Alors, il y a des pays comme la Chine où ça ne s'est jamais vraiment arrêté. Mais disons que depuis une quinzaine d'années, il y a eu des découvertes très importantes qui ont eu lieu en Asie. Et je pense que si vous suivez l'actualité des découvertes, vous en avez entendu parler, les Denisoviens, l'homme de Florès, l'homme de Luçon... Ce n'est pas seulement une succession de découvertes dont il s'agit, mais c'est aussi une façon nouvelle de comprendre l'évolution humaine. Et dans le fond, quand je dis que la paléanthropologie asiatique, que l'Asie, ça a été un petit peu le palais de la Belle au bois dormant de la paléanthropologie, c'est aussi à cause des modèles, dans le fond, qui ont été mis en avant pour comprendre l'évolution humaine pendant très longtemps. Et paradoxalement, c'est dans le fond la prééminence de l'Afrique, et notamment le modèle d'origine africaine de l'homme actuel, qui, dans le fond, nous a fait revisiter l'Asie avec des yeux nouveaux. Alors, d'abord, je pense que vous savez tous que l'Asie n'existe pas. L'Asie, c'est un morceau, un grand morceau d'un continent qui est l'Eurasie, en fait. Donc on a une masse continentale très importante qui fait à peu près 55 millions de kilomètres carrés. Et sur ces 55 millions de kilomètres carrés, eh bien, il y a un petit bout à l'ouest, là, qu'on appelle l'Europe, qui fait à peu près 10 millions de kilomètres carrés. Mais du point de vue géographique, il ne se passe pas grand-chose. Quand on passe entre l'Oural et la mer Caspienne, il n'y a pas de barrière géographique majeure. Cette grande plaine du nord-ouest de l'Europe, en fait, se poursuit vers la Sibérie. Et c'est une très, très vaste zone géographique. Évidemment, cette séparation Asie-Europe, c'est une séparation culturelle. C'est lié à l'histoire de grandes civilisations qui se sont développé d'une part autour de la Méditerranée depuis l'Antiquité, puis à l'autre bout de l'Eurasie, en Chine et dans les zones périphériques. Alors, du point de vue de la paléanthropologie, de l'évolution humaine, on parlera la prochaine fois un petit peu de la géographie de l'Asie, mais il faut aussi noter qu'il y a une partie de l'Asie, du point de vue géographique, la péninsule arabique, le Proche-Orient, qui, en fait, se comporte, je dirais, comme un territoire africain quasiment pendant une grande partie des derniers 2 millions d'années. vous verrez qu'on va trouver dans cette zone-là, eh bien, justement, des Homo sapiens qui sortent d'Afrique à un certain moment, des Néandertaliens qui, eux, évoluent dans l'ouest de l'Eurasie. Et donc, cette partie de l'Asie, il faut bien en parler, bien sûr, mais vous allez voir que c'est un monde quand même très différent de celui-là en Extrême-Orient. La paléoanthropologie, elle est née en Europe, vous le savez déjà. On a, dans la première moitié du XIXe siècle, des découvertes d'hommes fossiles qui se produisent, qui passent plus ou moins inaperçues. Il y en a eu une première pendant l'hiver 1829-1830, qui se passe en Belgique, dans les grottes d'Angis. Un archéologue, un précurseur de l'archéologie qui s'appelle Schmerling, met au jour un petit crâne d'enfant qui est en fait un néandertalien, qui n'est pas reconnu à l'époque comme néandertalien, ce sera seulement beaucoup plus tard, il sera identifié. Une découverte du même ordre a lieu à Gibraltar en 1848, donc quelques années plus tard. Là, pour le coup, il s'agit d'un crâne d'adulte, très complet, clairement différent d'un crâne d'homme actuel. Mais là encore, c'est une découverte qui va longtemps passée sous silence, va rester rangé dans un meuble quelque part, ce crâne. Et donc, c'est seulement en 1864 qu'on va le reconnaître comme un homme de Néandertal. Et en fait, le véritable acte de naissance de la paléontologie humaine, eh bien, c'est justement cette découverte de Néandertal. Donc en 1856, dans des carrières qui se trouve dans la région de Düsseldorf, dans un endroit qui s'appelle Néandertal. En allemand, Tal, c'est une vallée, hein, donc la vallée de Néander. Que des ouvriers qui travaillent dans les carrières, deux ouvriers italiens, vident une petite grotte qui s'appelle Feldhofer. Et cette petite grotte de Feldhofer contient des sédiments avec des ossements, surtout des ossements d'ours. Et d'autres mammifères, et ces ouvriers vont recueillir certains de ces ossements pour les donner à leur chef de chantier, qui pense que ce sont des ossements d'ours. Il les remet à un enseignant local qui s'appelle Fulroth, et ce monsieur Fulroth se rend compte tout de suite qu'il s'agit d'ossements humains. Il va les transmettre, il va les montrer à un anatomiste qui s'appelle Schaffhausen, qui est un professeur d'université, et ensemble, ils vont décrire cet homme de Néandertal qu'on a découvert pour la première fois. Alors, l'homme de Néandertal, c'est donc le premier homme fossile qui est découvert. Sa reconnaissance, son acceptation va prendre du temps. En fait, ça va prendre pratiquement toute la moitié du 19e siècle. C'est seulement avec la répétition de découvertes similaires qu'on va accepter l'idée qu'il a existé dans le passé un type humain très différent de l'homme actuel et qui a cohabité avec des formes éteintes. Et en particulier, ce sont des découvertes en Belgique, dans la grotte de Spy, qui vont, si je peux dire, régler la question de l'homme de Néandertal qui avait rencontré une opposition très, 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 très forte. Hein. Il y avait d'éminents savants qui pensaient que c'était un être pathologique qui avait laissé ses restes dans la grotte de Feldhofer. Donc tout ça se passe en Europe. Dans les années 1800, en 1868 exactement, on va trouver les premiers restes de Cro-Magnon en Dordogne. Et donc, on a ces premiers éléments de l'évolution humaine passée qui se mettent en place en Europe. Le deuxième épisode très important dans le développement de la paléanthropologie, eh bien, justement, c'est en Asie qu'il va avoir lieu. Et il va avoir lieu dans des circonstances tout à fait curieuses. En fait, celui qui va mettre en avant le rôle de l'Asie dans l'évolution humaine, c'est ce biologiste qui est assis ici à gauche, qui s'appelle Ernst Haeckel, et qu'on voit ici en compagnie de son assistant lors d'une expédition aux îles Canaries pour recueillir des organismes marins, une photo assez pittoresque. Et donc Ernst Haeckel, c'est un biologiste qui travaille à Iéna, en Allemagne. Et dans la deuxième moitié du XIXe siècle, Ernst Haeckel est le grand défenseur des théories de Darwin. Donc c'est en Europe continentale celui qui vraiment soutient les vues de Darwin et défend les théories évolutionnistes. Alors Ernst Haeckel, c'est un biologiste considérable. Hein. Il a, je parlais de cette expédition aux îles Canaries pour aller recueillir des organismes marins. On doit à Ernst Haeckel la description de plusieurs milliers d'espèces nouvelles. Il a publié des monographies extraordinaires. Il a fait des tas de choses. On lui doit en particulier une théorie fameuse en biologie, qui est la théorie de la récapitulation, suivant laquelle le développement embryonnaire des individus reconstitue, récapitule une partie de leur évolution passée. C'est Haeckel qui a proposé ces thèses-là. Et Haeckel était une intelligence extrêmement féconde. Et évidemment, il soutenait les thèses de Darwin et s'est tout naturellement intéressé à l'évolution humaine. Alors Darwin, comme d'ailleurs Thomas Huxley, qui était un de ses disciples, dans le fond, lui a toujours soutenu le rôle de l'Afrique dans l'évolution humaine. C'est-à-dire que dans les écrits de Darwin, il dit très clairement que d'après lui, les primates les plus proches de l'homme sont les grands singes africains, le chimpanzé et le gorille. Et donc, Darwin pense que c'est en Afrique que doit se situer l'origine de l'homme. Alors Darwin, dans son Origine des espèces par voie de sélection naturelle, se garde bien de parler d'évolution humaine. Il faudra attendre beaucoup plus tard, 1871, pour qu'il s'exprime là-dessus. Mais d'autres se chargent de porter le message de l'évolution et de l'évolution humaine. Et donc Haeckel, lui, bien qu'il soutienne les thèses de Darwin sur l'évolution, ne pense pas que c'est l'Afrique qui a joué un rôle essentiel, c'est, d'après lui, plutôt l'Asie. Pourquoi ? Eh bien parce que Haeckel voit plutôt, alors pour des raisons anatomiques et embryologiques assez obscures, voit plutôt une parenté entre les hommes et les grands singes asiatiques, comme l'orang-outan ou le gibbon, qu'entre l'homme et les grands singes africains. Et Haeckel, à Iéna, a un ami qui s'appelle Auguste Schleicher, qui est professeur à la faculté de philosophie de l'université de Iéna. Schleicher, c'est un peu le mouton noir de la faculté de philosophie de Iéna. Il a des idées à la fois politiques et puis scientifiques un petit peu, dissidente. Donc, il est très content d'avoir ces relations amicales avec Haeckel. Et Schleicher s'intéresse, lui, à l'origine des langues, et en particulier à l'origine de l'indo-européen, enfin des langues indo-européennes. Et Schleicher est connu pour être un de ceux qui a construit ce genre d'arbre pour expliquer les relations entre différentes langues indo-européennes. Et il a consacré une grande partie de son travail, de sa recherche, à la reconstitution d'une langue originelle qui serait la langue parlée par les anciens indo-européens. Je crois même qu'il a écrit une petite fable dans cette langue reconstituée par des techniques qui, pour l'époque, étaient assez innovantes. Schleicher, comme Haeckel, vont être les premiers à utiliser, d'ailleurs, ce mode de représentation de l'évolution sous forme d'arbre, hein, une forme qui, aujourd'hui, nous paraît complètement banale, mais qui, au XIXe siècle, ne l'était pas. Alors, quel est le lien entre Schleicher et l'origine de l'homme en Asie ? Eh bien, Schleicher convainc Haeckel qu'en fait, toutes les grandes familles de langues actuelles, comme les indo-européens ou les langues sino-tibétaines ou sémitiques ou tout ce que vous voulez, eh bien, sont apparues indépendamment les unes des autres, et qu'elles sont apparues à partir de formes humaines très anciennes qui ont chacune séparément développé la capacité de langage, et donc des langues complètement différentes. En gros, la vision de l'évolution humaine et de l'évolution des langues par Ernst Haeckel, c'est qu'il a existé dans le passé un chaînon manquant entre l'homme et les grands singes. Alors pour Haeckel, c'est un grand singe asiatique et pas africain. Et ce chaînon manquant, eh bien, il était muet. Et c'est l'évolution de ce chaînon manquant dans différentes parties du monde qui a donné naissance à des humanités diverses et surtout à des familles de langues différentes. Alors, Haeckel a même donné un nom à ce chaînon manquant. Il l'a appelé Pithecanthropus, hein, donc homme-singe, et Alalus, c'est-à-dire muet. Donc, voilà des reconstitutions de l'époque. Je crois que ça, c'est un dessin qui a été offert à Haeckel pour un de ses anniversaires, qui imagine cet homme-singe muet qui a vécu dans le passé, probablement en Asie. Et évidemment, on n'a absolument aucun fossile pour documenter tout cela. Mais Haeckel pense que l'origine de ce chaînon manquant doit se trouver donc quelque part en Asie. Et il a imaginé un continent englouti qu'il appelle Lémuria, qui a existé quelque part là où se trouve aujourd'hui l'océan Indien. Et c'est à partir de cette région-là que ce Pithecanthropus alalus se serait diffusé dans le monde et aurait donné naissance à différentes branches d'humanité. Donc tout ça, évidemment, est assez, je dirais, fantaisiste. Hein. Aujourd'hui, on sait très bien que, d'abord, il n'y a pas eu de continent englouti à l'endroit de l'océan Indien, en tout cas dans le Pléistocène, et puis que, en fait, c'est plutôt hors d'Afrique que s'est produite les différentes radiations évolutives qui ont donné différentes formes de d'hominines. Alors c'est sur la base de ces présupposés complètement, encore une fois, fantaisistes, qu'un anatomiste, un anthropologue néerlandais qui s'appelle Eugène Dubois, qui est absolument enthousiasmé par les idées de Haeckel, avec qui il échange toute une correspondance, eh bien, au désespoir de ses amis et de sa famille, eh bien, cet Eugène Dubois va partir dans la région de l'océan Indien pour essayer de trouver le Pithecanthropus alalus qui n'existe pas. Et le plus fort de l'affaire, c'est qu'il va le trouver. Enfin, il va trouver quelque chose. Donc, il s'engage dans l'armée néerlandaise, l'armée coloniale, parce qu'il n'a pas d'argent pour financer son expédition. Il a une formation de médecin. Et donc, il demande à être envoyé dans ce qui s'appelait à l'époque les Indes orientales néerlandaises et qui s'appelle aujourd'hui l'Indonésie, donc indépendante depuis 1945. Donc, Dubois part avec son épouse. Je crois que ce n'était pas un mariage très, très heureux, et une petite fille toute nouveau-née. Et donc, il arrive à Sumatra en décembre 1887, et là, il va consacrer son temps libre, quand il ne s'occupe pas de malades, pour essayer de trouver des fossiles. Et il va se montrer extrêmement actif, il va trouver des fossiles à tel point que, impressionné par ses résultats, il va finir par être libéré de son travail médical et on l'adjoint au ministère colonial de l'éducation il est engagé comme une sorte d'explorateur. On met à son service deux ingénieurs et 50 condamné aux travaux forcés pour essayer de trouver le Pithecanthropus analus, qui n'existe pas. Donc, Dubois va travailler pendant un petit moment à Sumatra, et puis, assez vite, il va partir dans l'île de Java, où là, il va vraiment se montrer très chanceux. En 1890, il découvre un petit fragment de mandibule dans un site qui s'appelle Kedung Brudus, à Java, mais surtout, il est resté célèbre pour ses fouilles menées le long de la rivière Solo, donc à peu près dans le centre de l'île de Java. Et donc, le long de cette rivière, eh bien, il y a des terrasses avec des sédiments. Et donc, grâce à ces forçats condamnés aux travaux forcés, eh bien, vous voyez, il n'hésite pas, hein, il fait des fouilles quand même de très, très grande ampleur. On aurait beaucoup de mal aujourd'hui à faire des fouilles aussi importantes dans un temps aussi court. Il faut dire que les fouilleurs sont volontaires hein, maintenant. Et donc, dans ces sédiments qui longent la rivière Solo, eh bien, Dubois va trouver des ossements fossiles. Donc c'est assez extraordinaire parce que voilà quelqu'un qui part à l'autre bout du monde, enfin par rapport aux Pays-Bas, animé par des hypothèses franchement farfelues, qui se met à creuser au bord d'une rivière, à l'autre bout du monde, et qui trouve ce qu'il cherche. Hein. Et évidemment, on peut se dire que c'est complètement génial. On peut aussi se dire qu'il y a des tas de Dubois qui sont partis faire des trous partout et dont personne ne parle parce qu'eux n'ont rien trouvé. Toujours est-il que Dubois donc, découvre cette calotte crânienne, cette dent et ce fémur qui sont humains, enfin d'après lui, la dent, le fémur. Alors le fémur est très très proche d'un fémur d'homme actuel, donc il traduit une démarche bipède, une posture redressée. Dubois, c'est un très bon anatomiste. Mais la calotte crânienne qui est trouvée dans les mêmes niveaux, elle, est très très curieuse. Parce que vous voyez qu'elle est le sommet du crâne est complètement aplati, avec un front fuyant, un bourrelet susorbitaire, un bourrelet occipital, et à l'intérieur, un cerveau qui devait faire à peu près 700-750 cm3, quelque chose comme ça, donc à peu près la moitié du cerveau d'un homme actuel. Et donc Dubois, en hommage à ses... à Haeckel et à ses idées sur l'origine de l'homme et le chaînon manquant, va appeler ces restes Pithecanthropus, et le terme Pithecanthrope a connu une postérité d'une certaine façon jusqu'à aujourd'hui, on a même fait des chansons, mais il laisse tomber quand même le halalus, le muet, et il le remplace par erectus, qui veut dire vertical, et donc c'est un homme primitif vertical. Alors, Dubois, évidemment, extrêmement content de sa découverte, il va continuer à travailler. Il va découvrir plusieurs autres restes à Trinil, en particulier des fémurs. Donc, ces forçats-là qui l'ont vu tellement enthousiaste à la suite de la découverte de ce fémur vont lui trouver d'autres fémurs. Donc, il y a toute une collection de fémurs qui vient de Trinil, à tel point qu'on a pensé à un moment donné que ces fémurs devait venir peut-être de cimetières récents où on allait lui chercher des fémurs, mais non, apparemment, ils sont bien des fémurs anciens. Ils ont peut-être laissé passer d'autres os. Et donc Dubois va rentrer en Europe et il est évidemment très, très enthousiaste. Il va faire des conférences, il va faire des publications, mais malheureusement, sa découverte de Pithecanthrope n'est pas accueillie avec autant d'enthousiasme par tout le monde. Alors, pendant l'exposition universelle de Paris de 1900, près du Champ de Mars, là-bas, eh bien, dans le pavillon néerlandais, on présente une reconstitution du Pithecanthrope de Dubois. Vous voyez, il est redressé, hein, ça c'est le fémur qui nous le dit, il a l'air quand même pas très malin, et il a, vous voyez, des orteils écartés du reste du pied, parce que bois, d'autres anatomistes pensent que c'est un chaînon manquant, donc un être intermédiaire entre grand singe et homme. Alors il y a des anatomistes de l'époque, des paléontologues, qui n'achètent pas du tout les interprétations de Dubois et qui pensent que s'agit plutôt d'une sorte de grand singe un peu bizarre qui a été découvert. Et Dubois, qui a une personnalité assez, difficile, va graduellement se renfermer et il va en particulier mettre ses fossiles de Java sous clé et graduellement ne plus les montrer à personne pendant assez longtemps. Alors on lui a donné un poste de professeur de géologie à l'université d'Amsterdam, mais dans le fond, à la fin de sa carrière, il s'est mis à faire plutôt autre chose. Il a en particulier été un de ceux qui s'est intéressé au cerveau, à l'évolution du cerveau. Il a été un des fondateurs, si on peut dire, de la paléoneurologie. Il est mort assez, amer, en fait, ce Dubois. Il a quand même légué au musée naturaliste de Leiden une collection énorme qui est encore en cours d'exploitation. Et je vous montrerai, quand on parlera des Homo erectus de Java, des découvertes tout à fait récentes qui ont été faites dans cette collection de Dubois à Leiden. Et puis voilà, on va l'enterrer dans une terre non consacrée parce que ces découvertes, non seulement ont créé des polémiques avec ses collègues, mais aussi avec l'Église néerlandaise. Et donc, Dubois a une destinée quand même assez malheureuse. Mais il a lancé, dans le fond, cette recherche dans l'île de Java. Et à la suite de Dubois, il y a de nombreux sites. Alors là, je vous en montre quelques-uns, mais il y en a d'autres. En fait, cette île de Java se révèle être un véritable paradis paléontologique. Pourquoi ? Eh bien, surtout à cause de l'activité volcanique qui est très intense dans cette région du monde. Et donc, on a des dépôts marins, des dépôts fluviatiles et des dépôts volcaniques qui se recouvrent les uns les autres. Et dans de nombreux endroits, eh bien, ces dépôts sont très, très riches en fossiles. Et donc, depuis l'époque de Dubois, dans le fond, Java a continué jusqu'à aujourd'hui à être un lieu où il y a des fouilles et des recherches de fossiles. Alors, malheureusement, beaucoup des découvertes qui ont été effectuées à Java, et vous verrez, je vous dirai à peu près la même chose pour la Chine tout à l'heure, beaucoup de ces découvertes ont été des découvertes qui ont été faites de façon fortuite, c'est-à-dire que les paysans du coin, en creusant dans les champs, à l'occasion ramassent des fossiles ou même parfois les cherchent pour aller les vendre à des paléontologues occidentaux qui sont très, très friands de ces découvertes et qui offrent des récompenses. Alors à Java, le deuxième grand nom de la paléanthropologie, c'est un chercheur d'origine allemand qui était né à Berlin, qui s'appelle Ralph von Königswald. Et Ralph von Königswald, c'est un grand nom de la paléanthropologie. Lui, il s'est fait engager par les services géologiques à Java en 1930. Donc, il travaille pour les Néerlandais. Il va d'ailleurs prendre la nationalité néerlandaise avant la Seconde Guerre mondiale. Et ses travaux sont en partie financés par la Fondation Carnegie. Et donc, Ralph von Königswald va travailler pendant très longtemps dans l'île de Java, en particulier dans plusieurs sites. Le site de Mojokerto, qui est dans l'est de Java, dans lequel, en 1936, alors qu'il n'a que 33 ans, il annonce la découverte d'un petit crâne, tout petit comme ça, que j'ai eu le plaisir de tenir en main, qui est un crâne de bébé Homo erectus, j'introduis le mot Homo erectus parce que tous ces fossiles dont je vous parle, ces pithécanthropes et d'autres que je vais vous montrer dans un instant, ont été plus tard regroupés sous le terme d'Homo erectus. Donc cette découverte, c'est la première grande découverte de von Königswald, d'ailleurs qui suscite le désaccord, la réprobation de Dubois, qui lui est aux Pays-Bas. Von Königswald va renommer ce fossile Homo Mogiocortensis, hein, du nom du petit village qui se trouve à côté de la découverte. Mais c'est surtout dans un autre site de Java, qui se trouve ici, Sangiran, vraiment au centre de l'île, que von Königswald va travailler pendant très nombreuses années. Alors, ce site de Sangiran, ce n'est pas un site, en fait, c'est une région assez vaste qui représente une sorte de dôme géologique avec, vous voyez, des formations qui poussent par en dessous, hein, et puis l'érosion qui recoupe des dépôts, donc qui forment des espèces d'auréoles avec les terrains les plus anciens au centre et puis des terrains de plus en plus récents autour. Et vous voyez tous ces petits crânes et ces petites mandibules que vous voyez sur la carte, eh bien, ce sont des lieux où on a découvert, à Sangiran, donc depuis l'époque de von Königswald, hein, des fossiles d'hominines. Je crois qu'on en a 80, quelque chose comme ça, au total, aujourd'hui. Alors, encore une fois, souvent trouvés dans des conditions qui ne permettent pas toujours de reconstituer l'origine précise des fossiles. Hein. Ça, c'est un problème récurrent. En particulier, von Königswald offrait une récompense, hein, à qui lui ramenait des fossiles humains. Et donc, les rabatteurs, si je peux dire, qui travaillaient pour lui, une fois ou deux, il s'est rendu compte qu'il cassait les fossiles en morceaux pour revenir avec plusieurs pièces et toucher plusieurs fois la récompense. Donc, ça l'a un petit peu, ça a changé un peu sa politique de récompense. Et donc, à Sangiran, von Königswald, dans les années 30, donc, va mettre la main sur une calotte crânienne qui ressemble énormément à la calotte crânienne que Dubois avait découverte à Trinil en 1890. Et à la suite de ça, il va en trouver d'autres, y compris d'ailleurs des espèces, enfin une espèce d'hominine qu'on appelle Meganthropus paleojavanicus, dont on va se demander très longtemps, on se demande toujours d'ailleurs, si c'est une forme d'Homo erectus ou quelque chose de différent. Alors, von Königswald est un chercheur très, très enthousiaste et même intrépide. Au moment de l'invasion de l'île de Java par l'armée japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale, il va cacher ses collections pour ne pas que les Japonais mettent la main dessus. Il y a quand même un crâne qui va finir par être pris par l'armée japonaise et offert à l'empereur Hirohito. Il va être rendu après la Seconde Guerre mondiale. Et von Königswald, lui, il est interné dans un camp par les Japonais et il va passer une partie donc, de la Seconde Guerre mondiale comme prisonnier des Japonais. Et plus tard, il reviendra en Europe, il va revenir aux Pays-Bas et puis à la fin de sa carrière, il va être hébergé au musée Senckenberg de Francfort avec ses collections. Et quand j'étais étudiant, j'ai eu l'immense plaisir, honneur de me rendre à Francfort et de rencontrer von Königswald qui m'a montré ses collections. C'était un très, très vieux monsieur à cette époque-là. Moi, j'étais très, très jeune et j'en garde un souvenir tout à fait ému. Alors, autre découverte, toujours dans l'île de Java, découverte d'ailleurs qui remonte à l'époque de von Königswald. On est toujours dans les années 30. Donc, il y a sont toujours ces services géologiques, ces services de cartographie géologique qui sont très, très actifs. Et donc, il y a un ingénieur des mines néerlandais qui s'appelle Oppenhorst qui ouvre des fouilles toujours le long de la rivière Solo, hein, donc un peu plus vers l'est par rapport à Trinil. et il ouvre deux fouilles dans un, près d'un village qui s'appelle Ngandong. Et là encore, sont des sites qui sont tout à fait extraordinaires. On récolte des milliers d'ossements fossiles. Il faut dire encore une fois que ce sont des fouilles quand même assez intenses. Les fouilles de Ngandong ont duré 27 mois. Et en moyenne, la progression des fouilles était de 165 mètres carrés par mois. Donc, je ne sais pas si ça vous donne une idée mais de la vitesse de fouille, mais ce n'est pas du tout le genre de fouille qu'on pratique aujourd'hui. Et au cours de ces fouilles, à Ngandong, on trouve, donc, je vous l'ai dit, des milliers d'ossements de mammifères, mais surtout, on trouve à nouveau des crânes d'Homo erectus, plus récents que celui de Trinil, que celui de Saint-Girant. Et voilà, ici, c'est en 1934, je crois, un de ces crânes de Ngandong, Ngandong 5, qui est en place, vous voyez, dans des sédiments, une espèce de couche cendreuse interstratifiée dans des dépôts fluviatiles. Et c'est une série qui est tout à fait extraordinaire. Hein. Il y a une dizaine de ces calottes crâniennes qui sont découvertes. D'ailleurs, on va beaucoup spéculer sur pourquoi on trouve autant de calottes crâniennes. On va parler des chasseurs de têtes de Ngandong, parce que certains prétendent qu'elles ont été déposées là intentionnellement. Il y a quand même quelques autres os, des tibias en particulier. Et donc, avec toutes ces découvertes, j'arrête avec Java et la Seconde Guerre mondiale. Les recherches après la Seconde Guerre mondiale vont se poursuivre. Et on a donc une série qui est probablement aujourd'hui, si on met ensemble tous les fossiles de Java, la plus grande série de restes d'Homo erectus qu'on connaisse sur la planète. On va se déplacer maintenant en Chine. Et en Chine, on a aussi des découvertes très très importantes qui ont lieu. Donc j'arrête mon exposé historique à peu près à la Seconde Guerre mondiale, parce qu'après, je ne dis pas qu'il ne se passe plus rien, mais c'est un petit peu la continuation de ce qui s'est passé auparavant, avec beaucoup moins de découvertes. Alors en Chine, les Occidentaux, les chercheurs suédois en particulier, mais aussi autrichiens, français, américains, sont très, très actifs. Et alors, en Chine, il y a une tradition qui consiste à utiliser les ossements fossiles et les dents fossiles, qu'on appelle des os de dragon, pour la pharmacopée traditionnelle locale. Donc on broie en poudre ces fossiles et puis on vend cela dans les pharmacies traditionnelles. Ça se pratiquait, moi dans les années 80, j'ai encore acheté des fossiles dans des pharmacies. Il n'y avait pas de dents d'homme fossile, malheureusement, dans le sachet qu'on m'a vendu, mais les paléontologues de l'époque visitent énormément ces pharmacies traditionnelles. Et de temps en temps, dans ces dents, eh bien, il y a des dents qui semblent peut-être humaines. Alors, dans le Pléistocène d'Asie, il y a beaucoup de dents d'orang-outan en particulier qui ressemblent beaucoup à des dents humaines. Et quand je suis allé voir Ralph von Koenigswald à Francfort dans mes jeunes années, eh bien, il avait encore, lui, toute une collection de dents qu'il avait achetées comme ça dans des pharmacies traditionnelles. Et on se demandait si ces dents étaient vraiment humaines. Donc on commence à recueillir des fossiles, on commence à penser qu'il y a dans ces restes fossiles qui sont utilisés pour fabriquer des médicaments qui sont censés guérir le mal de tête, des fossiles d'hominines. Mais dans le fond, on ne sait pas trop d'où ces fossiles viennent. Parce qu'évidemment, les gens qui vendent les fossiles n'ont pas tellement envie de dire où est-ce qu'ils les trouvent pour qu'on n'aille pas se servir gratuitement, si je peux dire, dans leur source d'approvisionnement. Alors, quand même, il va y avoir une longue, si je peux dire, une longue enquête qui va amener un certain nombre de gens dans la région de Pékin, à peu près une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Pékin, dans une zone que l'on appelle la colline aux os de dragon. parce que justement, on y trouve des os de dragons. Enfin, ce sont des os de mammifères pléistocènes. Et donc, dans les années 20, eh bien, il y a un scientifique suédois qui s'appelle Johan Gunnar Andersson, qui visite cet endroit, qui trouve au milieu des eaux dites de dragon des éclats de quartz et qui pense qu'il y a certainement un site paléolithique dans cette colline aux eaux de dragon. Et donc, à sa suite, eh bien, il va y avoir une série de recherches, de fouilles, en particulier par son assistant qui s'appelait Otto Zdansky, qui était un Autrichien. Et donc, à la fin des années 20, on commence à fouiller cette colline aux eaux de dragon. C'est une fouille qui va prendre de plus en plus d'ampleur, surtout après la découverte de deux dents humaines qui vont être reconnues comme des dents humaines archaïques, différentes des dents actuelles, qui vont être données à cet anatomiste canadien qui s'appelle Davidson Black. Et Davidson Black va créer le terme de Sinanthropus pekinensis. Alors, c'est un des nombreux avatars de cet Homo erectus asiatique. Hein. Et Davidson Black, donc, qui a créé ces deux dents, on dit que ces deux dents étaient devenues des sortes de fétiches qui se promenaient avec tout le temps, avec les dents dans un petit étui de velours pendu à sa ceinture. Davidson Black va être le premier à diriger des fouilles de grande ampleur qui se déroulent dans la colline aux eaux de dragon. Vous voyez qu'on démolit quasiment la colline. Hein. C'est une colline calcaire avec un karst, donc des cavités. Et donc, on découpe tout ça en grands carrés de 2 mètres, hein, grands cubes de 2 mètres. Et on fouille de façon très intense. Ce sont des fouilles qui sont menées en collaboration par des Chinois, des Autrichiens, donc ce Canadien qui dirige l'affaire, et surtout le soutien de la fondation Rockefeller, une fondation américaine qui paye pour que ces recherches se développent. Et on va trouver une grande quantité de fossiles dans cette colline aux eaux de dragon. Donc, avec la série de Java, c'est la deuxième grande série d'Homo erectus découvert en Asie. Voilà une reconstitution de ce Sinanthropus pekinensis de Black qui a été faite par un chercheur qui s'appelle Franz Weidenreich. Et on a découvert à Zougoudian, cette colline aux eaux de dragon, plusieurs crânes, des mandibules, des os postcrâniens, de nombreuses dents qui, malheureusement, ont été perdues par la suite. Je vais vous dire dans quelles circonstances. Et c'est, heureusement pour nous, tous ces vestiges ont fait l'objet d'une étude très, très détaillée par Franz Weidenreich et surtout de moulages très précis qui ont été réalisés, donc ils ne sont pas complètement perdus. Alors, Franz Weidenreich, c'est encore un chercheur allemand. L'Allemagne d'avant la Seconde Guerre mondiale produit beaucoup de paléontologues, d'anthropologues. Malheureusement pour eux, la Seconde Guerre mondiale va mettre à mort, si je peux dire, la discipline en Allemagne, qui va mettre très longtemps à repartir. Et donc, Franz Weidenreich est un anthropologue qui a vécu une bonne partie de sa vie à Strasbourg. Il a obtenu son doctorat à Strasbourg. Il a mené une vie à Strasbourg. Il a eu une vie... il s'est marié. Il a même joué un petit rôle politique. Tout ça jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et puis, en 1918, quand l'Alsace et la Lorraine ont été récupérées par la France avec le traité de Versailles, on a dit à Franz Weidenreich, ben maintenant, tu n'es plus chez toi, et donc va-t'en. Et donc, Weidenreich est parti. Il a occupé divers postes académiques. à l'université de Heidelberg, puis à Francfort. C'est surtout un médecin anatomiste. Hein. Au départ, c'est ça, sa formation. Mais il va s'intéresser à la paléontologie et en 1928, il va publier la description d'un Néandertalien découvert en Thuringe, près de la ville de Weimar, et qui est une très très bonne description. Weidenreich se révèle être un paléontologue en fait très très doué, surtout dans la description anatomique très détaillée, dans l'interprétation taxinomique de ces restes. Malheureusement pour Weidenreich, il est juif, ou en tout cas en partie juif, et il s'intéresse beaucoup à l'idéologie nazie qui est en train de monter en Allemagne donc dans les années 30. Et il va faire des conférences, il va écrire des articles, il va écrire en particulier une étude sur ce qu'il appelle le problème juif, dans lequel il combat très activement les idées nazies, les idées racistes. En gros, il explique que les races, ça n'existe pas, en tout cas pas comme les nazis le conçoivent. Et évidemment, tout ça va le mener vers une destinée assez triste, parce que quand Adolf Hitler est élu comme chancelier, Franz Weidenreich perd son poste à l'université de Francfort, on le met dehors. Et c'est un monsieur qui est quand même assez âgé. Il est né en 1873. Hein. Donc en 1933, il a la soixantaine. Hein. Et donc, à la soixantaine, Weidenreich va être obligé de s'exiler. Il va d'abord partir aux États-Unis, où on va lui donner un poste d'invité à Chicago. Alors pour lui, c'est terrible parce qu'il ne parle pas anglais, très très mal. Il se retrouve dans un pays qu'il ne connaît pas. C'est un monsieur assez âgé. Enfin, aujourd'hui, à 60 ans, on est jeune. Mais en 1930, on n'était pas si jeune que ça. Il mène une vie un peu errante. Et à ce moment-là, Davidson Black, le Canadien qui était le chef des fouilles à Zougoudian, lui meurt prématurément. Je crois qu'il a 49 ans, il a une maladie cardiaque et il meurt assez jeune. Et donc son poste est libre. Et on dit à ce pauvre Weidenreich, écoute, si tu ne sais pas où aller, pars en Chine. Et donc le voilà en Chine. Pour une période qui va être assez courte, mais qui va être extrêmement, féconde sur le plan scientifique, parce que Weidenreich va assister à la découverte et surtout va s'investir énormément dans la description de ces restes de synanthropes. Il va commencer à travailler à Zougoudian, il continuera son travail plus tard aux États-Unis. Il a une secrétaire qui est anglaise, qui est anglophone, qui l'aide beaucoup, qui va beaucoup l'aider dans la rédaction de toutes ces descriptions. Alors, il est manifestement poursuivi par le destin, parce que 3 ans après son arrivée à Zougoudian, là sont les Japonais qui arrivent, la vie sur la fouille de Zougoudian devient quand même assez périlleuse. Donc on évacue le personnel. Weidenreich va retourner aux États-Unis, où il va avoir pendant assez peu de temps un poste à l'American Museum of Natural History à New York, où il va continuer à travailler sur les races de synanthropes. Et les races de synanthropes, eux, on essaie, c'est un peu la même histoire qu'avec von Königswald à Java, on essaie de les mettre à l'abri des envahisseurs japonais. Et donc, on finit par convaincre l'ambassadeur des États-Unis d'organiser un rapatriement des fossiles vers les États-Unis. Ces fossiles sont emballés dans des boîtes qui sont mises dans une espèce de cantine en bois du type de celle que les Marines américains utilisent pour le transport de leurs effets personnels. Donc tout est emballé dans deux caisses comme celle-là. Et ces caisses sont censées être transportées par un bateau qu'on doit retrouver près du port de Qingguangtao. Malheureusement, ce bateau se fait capturer par les Japonais. Les caisses restent dans un camp de marines qui s'appelle Camp Holcomb, près de Qingguangtao, et c'est la dernière fois qu'on a vu ces caisses. Donc, tous les fossiles découverts à Zhougoudian, dans cette magnifique collection d'Homo erectus, eh bien, a disparu pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, depuis, il y a toute une... Je pense que si vous allez sur Google, vous trouverez certainement des références d'ouvrages qui racontent comment on a retrouvé ces fossiles. Alors, les bruits les plus variés ont couru. Il y a une veuve d'un Marines américain qui a prétendu qu'elle les avait dans son garage. Finalement, ce n'était pas vrai. On a dit qu'ils étaient, je ne sais pas où, au Vatican, que c'était le KGB qui les avait, enfin, etc., etc. Ou même qu'ils étaient au Japon, tout bêtement. En fait, je pense que malheureusement, ils ont totalement disparu. Alors en fait, aujourd'hui, il reste très peu de choses. Il reste quelques dents qui ont été rapportées au musée d'Uppsala. Je vous rappelle l'investissement des chercheurs suédois hein, dans les premiers travaux à Zhougoudian. Donc on a quelques dents qui ont été retrouvées dans des cartons au musée d'Uppsala, qui sont les dents découvertes à Zhougoudian avant la guerre. Et puis les Chinois ont repris des fouilles à Zhougoudian, dans la localité principale, après la guerre, et ont découvert quelques restes, mais enfin rien de comparable à ce qui, comment dire, ce qui avait été mis au jour avant la Seconde Guerre mondiale. Donc, Weidenreich va consacrer les dernières années de sa vie qui vont être assez courtes. Je crois qu'il meurt en 1948, donc il est à New York, et il va publier plusieurs monographies énormes avec la description très très détaillée de tous ces fossiles. C'est, j'allais dire, une bible pour les gens qui s'intéressent à ces questions-là, et un ouvrage qui est toujours utilisé encore aujourd'hui. Alors, vous avez sur cette photo Weidenreich qui rencontre von Koenigswald. Et Weidenreich et von Koenigswald vont avoir des contacts. Ils vont même écrire ensemble une description des fossiles d'Erectus de la rivière Solo. Vous vous souvenez, ces calottes crâniennes du village de Ngandong. Donc, c'est Weidenreich qui va les décrire avec une introduction par von Koenigswald, et ces contacts entre les deux hommes vont être très fructueux parce que, dans le fond, en mettant ensemble ces fossiles javanais, indonésiens, et puis les fossiles chinois, eh bien, va peu à peu naître l'idée que tout ça, eh bien, c'est une espèce, en fait, une espèce fossile, et c'est l'espèce qu'on appelle aujourd'hui Homo erectus. Alors, le terme d'Homo erectus a été proposé plus tard par Ernst Mayr, en 1950, mais en fait, c'est quand même ces chercheurs-là qui ont, si je peux dire, porté sur les fonds baptismaux l'espèce Homo erectus. Donc on laisse tomber Pithecanthropus, on laisse tomber Sinanthropus, et on appelle tout ça Homo erectus. Donc gardez bien ça en tête, Homo erectus, après la Seconde Guerre mondiale, c'est une espèce que l'on ne connaît qu'en Asie. C'est-à-dire que les premiers Homo erectus qui vont être découverts en Afrique, c'est beaucoup plus tard. Il va y avoir des découvertes à la fin des années 50 en Afrique du Nord, avec les travaux de Camille Arambourg en Algérie, et puis la découverte à Oldouvaille d'une calotte crânienne, mais là on est dans les années 60. Hein. Donc Homo erectus, c'est une espèce très longtemps uniquement asiatique. Et vous voyez comment, dans le fond, l'histoire a beaucoup pesé sur l'interprétation du matériel fossile, parce que finalement, il a fallu attendre très longtemps des découvertes de la fin du XXe siècle pour réaliser qu'Homo erectus était en fait une espèce d'origine africaine qui étaient sortis d'Afrique et qui étaient allés en Asie. Alors, dans les travaux de Weidenreich, il y a un aspect très important et qui va considérablement marquer l'évolution des idées. C'est l'idée de l'origine polycentrique de l'homme actuel. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'évolution polycentrique ? Je crois qu'on a déjà parlé dans certains de mes cours précédents. Mais c'est l'idée que, dans le fond, les hommes actuels, les aborigènes australiens, les Asiatiques, les Africains, les Européens, eh bien, ont des origines qui sont des origines locales dans chaque région de l'Ancien Monde. Et que dans chaque région de l'Ancien Monde, on assiste à une évolution à partir d'un stade que Weidenreich appelait archanthropien, les Homo erectus, si vous voulez, un stade paléanthropien, l'homme de Néandertal, et puis un stade néanthropien qui était le stade de l'homme actuel. Et donc, cette perspective-là, on avait des évolutions qui n'étaient pas complètement séparées. Il y avait quand même des échanges géniques entre toutes ces lignées pour maintenir un petit peu l'homogénéité de tout ça. Mais ça, c'était la grande idée de Weidenreich. Et c'est une idée qui a été prévalente en paléanthropologie, je dirais jusque dans les années 1980, où là, l'idée de l'origine africaine de l'homme actuel, de tous les hommes actuels, eh bien, a commencé à s'imposer et a été finalement, j'allais dire, presque universellement admise à la fin du siècle. Alors, cette idée de Weidenreich, elle a eu des continuateurs. On est passé d'un modèle polycentrique à un modèle qu'on appelle le modèle multirégional, qui a eu ses défenseurs, qui a encore un ou deux défenseurs, avec toujours cette idée que, dans le fond, on pouvait aller d'une calotte crânienne de Ngandong à un aborigène australien actuel et que c'était une lignée locale qui menait à des hommes récents. Pareil pour l'Europe, l'Afrique ou l'Asie. Alors, pourquoi je vous parle de ce modèle de Weidenreich et de sa survie ? Eh bien, parce que, singulièrement, ce modèle, eh bien, il va avoir une très grande influence sur les chercheurs chinois. Et disons qu'il y a une école paléanthropologique chinoise, en particulier basée à l'Institut de paléontologie des vertébrés et de paléontologie humaine de Pékin, où plusieurs professeurs se sont succédés depuis la Seconde Guerre mondiale, qui, dans le fond, ont été extrêmement influencés par ce modèle. Et, enfin, pour dire les choses un peu brutalement, les Chinois, ça leur plaisait bien, cette idée que, dans le fond, les Chinois actuels avaient leurs ancêtres en Chine et qu'il y avait une espèce de continuité entre les Homo erectus chinois et puis des formes plus évoluées, et puis les habitants actuels de Pékin. Et donc, la Chine est probablement un des endroits sur Terre aujourd'hui où les idées, le modèle d'origine africaine de l'homme actuel, est moins bien perçu qu'ailleurs. On va dire ça comme ça. Et alors, pourquoi ça a de l'importance ? Eh bien, ça a de l'importance parce que, depuis la Seconde Guerre mondiale, eh bien, on a continué à trouver en Chine, beaucoup de fossiles. La Chine, c'est probablement le pays d'Asie où les recherches en paléanthropologie, en archéologie d'ailleurs en général, sont les plus intenses. Elles sont soutenues par le gouvernement. Il y a dans toutes les grandes universités chinoises, il y a des gens qui s'intéressent à ces questions-là. Et donc, on a trouvé pas mal de restes fossiles, pléistocènes en Chine. Là, c'est une carte qui vous en montre quelques-uns des principaux, mais il y en a de nombreux autres qui ont été mis au jour. Et dans le fond, le problème de cette influence du modèle multirégional en Chine, c'est que, dans le fond, chaque fois qu'on a trouvé quelque chose qui n'était pas un Homo erectus style Zhougoudian et qui n'était pas un homme, un Homo sapiens proche des hommes actuels, chaque fois qu'on a trouvé quelque chose comme ce fossile découvert dans le sud de la Chine en 1958, qui est l'homme de Maba, mais il y en a d'autres, on a trouvé pas mal, je vous ai montré une carte avec beaucoup de points, eh bien, dans le fond, la tentation a été d'intercaler ces fossiles dans une lignée d'évolution continue depuis les Homo erectus asiatiques, chinois, jusqu'aux Homo sapiens asiatiques actuels. Et donc, il y a toute une littérature qui a été produite. Les Chinois ont été, sinon les seuls, mais les principaux à décrire et à interpréter les fossiles découverts en Chine. Et donc, ils ont intégré tous ces fossiles dans ce modèle multirégional. Et donc, ça a considérablement, enfin, de mon point de vue, obscurci la compréhension de l'évolution humaine en Asie. Vous avez sûrement entendu parler des Denisoviens, ce groupe frère des hommes de Néandertal qui a existé en Asie, qui a été découvert dans l'Altaï et dont on a décrit récemment une mandibule découverte au Tibet. Donc ces Denisoviens, c'est un groupe qui n'a rien à voir avec les Homo erectus asiatiques et qui n'a rien à voir avec les Homo sapiens chinois ou asiatiques en général. C'est une branche d'un groupe archaïque eurasien qui a une branche européenne et une branche, enfin une branche disons ouest-eurasie et une branche est-eurasie. Et dans le fond, le fait de vouloir faire rentrer des fossiles qui sont probablement pour la plupart des Denisoviens découverts en Chine dans ce schéma multirégional, dans le fond, a un petit peu brouillé les cartes. Et voilà un fossile découvert récemment, enfin découvert récemment, pas si récemment que ça, qui est ce crâne magnifique qui a été récemment, en 2018, qui a été présenté à la presse, aux médias, qui est probablement quelque chose comme un Denisovien ou l'ancêtre commun des Denisoviens et Néandertal en Chine. Mais ce genre de fossile, en très très longtemps, eh bien, on a voulu en faire un intermédiaire entre les Homo erectus chinois et les Chinois actuels. Je vous le montre aussi, ce fossile, parce que son histoire est quand même assez extraordinaire. Donc, je vous ai dit qu'il avait été présenté à la presse en 2018. En fait, on pense qu'il a été découvert en 1933 par un fermier qui l'a gardé chez lui. En tout cas, sa famille l'a gardé pendant toutes ces années. Et c'est seulement très récemment qu'il a été remis à un professeur de l'université de Hebei qui l'a donc présenté à la presse comme une découverte extraordinaire. Et ça, ça soulève un autre aspect de ces découvertes très nombreuses en Chine, c'est que, un petit peu comme à Java, on a beaucoup de découvertes qui ont été faites soit dans des fouilles anciennes pour lesquelles on a très très peu de... d'enregistrement du contexte des découvertes. Par exemple, cette fouille d'Oppenort à Ngandong, c'est une fouille, je vous dis, qu'elle avait duré 27 mois. Donc en regardant les cahiers de fouilles et les journaux de ces gens-là, on voit que les géologues qui dirigeaient cette fouille, ils ont été 24 jours sur la fouille, sur ces 27 mois. Donc ça veut dire que sur les 27 mois, il y avait 26 mois où il y avait des ouvriers qui creusaient avec des pelles et des pioches et qui sortaient des crânes. Hein. On a des discussions qui sont des discussions sans fin encore aujourd'hui pour savoir quel est le contexte géologique exact, la datation de ces fossiles. Et donc en Chine, on a une situation qui est un petit peu similaire avec beaucoup de fossiles comme celui-là. Voilà, qui sont un jour amenés dans une université par quelqu'un qui dit voilà un crâne qui vient du comté de machin, mais évidemment, c'est pas très facile de déterminer l'âge de ce fossile, et en particulier ce fossile absolument extraordinaire, très complet, eh bien, personne n'a la moindre idée de l'âge géologique de ce fossile, et ma foi, alors sauf pour des fossiles récents pour lesquels on peut faire une datation directe au radiocarbone, eh bien, on n'a pas de méthode magique pour dater le fossile lui-même, enfin des fossiles humains. Alors ces travaux qui ont eu lieu à Java et puis en Chine essentiellement, et qui ont, vous l'avez compris, essentiellement permis de découvrir Homo erectus, de comprendre ses variations, eh bien, j'allais dire de façon périphérique, ont permis la découverte d'autres choses, de choses beaucoup plus récentes, et en particulier des Homo sapiens plus ou moins anciens, Donc là, on est en train de parler des Homo sapiens qui sont venus remplacer tout le monde, si je peux dire, après les Denisoviens, après les Homo erectus, après les Denisoviens. Et donc déjà à l'époque de Dubois, eh bien, Dubois lui-même, 2 ans avant la découverte de Trinil, avait découvert 2 crânes près d'un village de l'est de Java qui s'appelle Wajak ou Wajak, suivant les orthographes. Et longtemps, on a cru que ces crânes de Wajak étaient des crânes anciens. On a d'ailleurs reproché à Dubois de les avoir cachés, de ne pas les avoir trop montrés à l'époque de la découverte du Pithecanthrope, parce que, dans le fond, il aurait craint de mettre en péril son Pithecanthrope en sortant des crânes qui étaient des crânes qui, ma foi, ressemblaient beaucoup à des crânes actuels. Hein. Alors, ces crânes de Wajak, ils ont été publiés par Dubois en 1920-1922. Alors, là encore, ça va être le cas pour 2 ou 3 autres découvertes que je vais vous montrer maintenant, sont des crânes, entre guillemets, modernes. Ceux-là, d'ailleurs, ceux de Wajak, on pense qu'ils sont, en fait, assez récents. Mais, pareil, on a essayé de les intégrer dans ce schéma multirégional. C'est-à-dire que ces crânes de Wajak ont été vendus pendant un moment comme voilà, un intermédiaire entre des formes anciennes, genre Ngandong, et puis les aborigènes australiens actuels. À Zougoudien, dans la grotte, à proximité de ce karst où on a découvert tous ces crânes et ces fossiles d'Homo erectus, eh bien, au sommet de la colline, il y a une grotte qu'on appelle la grotte supérieure de Zougoudien, et dans cette grotte, là aussi, on a trouvé des crânes qui sont des crânes d'Homo sapiens, et qui, alors, encore une fois, l'âge est assez discuté, mais il pourrait avoir 30 ou 35 000 ans. Donc on a trouvé 3 de ces crânes dans cette grotte supérieure. Et encore une fois, ces crânes ont été utilisés pour l'argumentation du modèle multirégional. Et on a comme ça toute une série de découvertes qui ont eu lieu, alors soit juste avant la guerre, soit dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, dans différents coins d'Asie, et qui documentent donc des hommes qui sont plus ou moins contemporains du paléolithique supérieur européen. Je vous montre la grotte de Nia, qui est dans la partie malaise de l'île de Bornéo, où on a découvert des fragments de fossiles humains, et la grotte de Tabon, qui est aux Philippines, très bel endroit, où là encore, on a trouvé des restes humains. Donc ça, c'est le paysage de l'extrême-Orient qui, dans le fond, s'est poursuivi jusqu'à il n'y a pas très longtemps. C'est-à-dire, c'est avec la découverte des Denisoviens dans l'Altaï et avec la découverte de l'homme de Flores et de Luçon, dans le fond, que cette image multirégionale va être définitivement mise à mal. Alors, pour finir, on va se transporter beaucoup plus à l'ouest, mais toujours en Asie. Dans cette partie de l'Asie qui est le Proche-Orient, où là aussi, pendant la première moitié du XXe siècle, toute une série de découvertes très importantes se sont produites. Cette région du Proche-Orient, elle est très très proche de l'Afrique. Et à travers les découvertes qui ont été faites, notamment en Israël, eh bien, on va graduellement, au cours du XXe siècle, voir se former l'ébauche de cette idée que, dans le fond, le modèle multirégional n'est pas un modèle valide, mais que c'est le modèle d'origine africaine de l'Homo sapiens qui est celui à retenir. Alors, on a dans cette région du monde un certain nombre de sites qu'on identifie aujourd'hui comme ayant livré soit des Néandertaliens, soit des Homo sapiens. Alors, c'était pas tout à fait... Alors, ça, c'est l'image que l'on a aujourd'hui de ces découvertes, mais ce n'est pas tout à fait l'image qu'on en avait au début du XXe siècle. Alors, la première personne qu'il faut mentionner dans ses recherches au Proche-Orient sur l'évolution humaine et le paléolithique de cette région, c'est une dame tout à fait remarquable qui s'appelait Dorothy Garrod, qui a été la première femme professeure à l'université de Cambridge en Grande-Bretagne, et qui est quelqu'un d'absolument remarquable. Elle a mené des campagnes de terrain avec des fouilleurs, des fouilleuses d'ailleurs, je crois surtout palestiniennes, notamment dans ces grottes qui s'appellent les grottes du Mont Carmel, donc près de Haïfa en Israël. Et donc, il y a une de ces grottes qui est la grotte de Taboun, qui est une grotte absolument gigantesque avec une coupe stratigraphique qui fait des dizaines de mètres de hauteur. Et donc, elle a fouillé cette grotte-là et d'autres grottes. Et ces travaux de Miss Garrod ont eu un impact considérable, surtout parce que à Taboun et puis dans une autre grotte du Mont Carmel qui s'appelle la grotte de Skoul, elle a mis au jour toute une série de fossiles humains qui ont, dès le départ, été assez débattus parce que leur interprétation était assez difficile. Alors, les travaux de Miss Garrod à Taboun sont des travaux qui datent des années 30, hein, mais elle a reconnu un certain nombre d'industries dans la grotte de Taboun qui couvrent un laps de temps considérable. Vous voyez, on parle de 300 000 ans. Et le découpage de ces industries lithiques dans la stratigraphie de Taboun a longtemps servi à fournir un cadre à la préhistoire du paléolithique moyen du Proche-Orient. Notamment, on a essayé d'attribuer à ces différentes industries donc un moustérien de type D, C, B, etc., des types humains différents. Alors, pourquoi des types humains différents ? Eh bien, parce que dans la grotte de Taboun, Miss Garrod a mis au jour un squelette qui est un squelette qui est connu sous le nom de Taboun C1. Pourquoi ? Parce qu'il a été trouvé dans la couche C de Taboun. On se demande d'ailleurs s'il ne vient pas en fait du niveau juste sous-jacent qui est le niveau B et qu'il aurait été enterré dans le niveau C. Et cette découverte de Taboun, eh bien, c'est un néandertalien. Et quand on découvre ça dans les années 30, on connaît déjà bien les Néandertaliens en Europe, et assez vite, on va faire le lien entre ce fossile et les fossiles européens. Et donc, c'est la preuve qu'on a, au Proche-Orient, des hommes de Néandertal, et que les hommes de Néandertal ne sont pas juste confinés à l'Europe. Alors, la deuxième découverte très importante de Miss Garrod, c'est une découverte qui est faite dans une petite grotte qui se trouve pas très loin de la grotte de Taboun. Alors, la grotte de Taboun, je vais dire, c'est une grotte très, très grande. Vous voyez, la grotte de Skoul, c'est beaucoup plus petit. Et là, sur le terre-plein devant la grotte, on va trouver un véritable cimetière avec ce qui semble bien être des sépultures. Et ces hommes qu'on trouve à Skoul, qui ont un âge, aujourd'hui, qu'on estime entre 100 et 135 000 à peu près, eh bien, eux posent quand même question, parce qu'ils ont des caractères qui les rapprochent des hommes actuels, mais aussi des caractères très primitifs. Vous voyez ce relief susorbitaire, cette face quand même très, très robuste, qui évoque un petit peu les Néandertaliens. Et donc, dès cette époque-là, on commence à se demander qu'est-ce qui se passe au Proche-Orient. Est-ce qu'on a un groupe humain ou est-ce qu'on a deux groupes humains? Est-ce que ces deux groupes humains correspondent à des niveaux différents de la grotte de Taboun? À l'époque, on ne sait pas très bien dater tout ça. Va se rajouter à ça, dans les mêmes années, dans les années 30, les travaux de ce monsieur qui s'appelle René Neuville et qui est consul général de France à Jérusalem, et qui est un passionné d'archéologie. Donc Neuville côté de son travail de diplomate, eh bien, se balade dans le désert du Negev, ramasse des silex. Il a produit beaucoup de travaux, en particulier une monographie très importante sur le paléolithique et le mésolithique du désert de Judée. Et Neville va entreprendre des fouilles dans une grotte qui s'appelle la grotte de Kavzé, au pied de Djebel Kavzé, près de Nazareth. Alors, Djebel Kavzé, ça veut dire la montagne du précipice. Pour ceux qui sont versés dans les Écritures, c'est l'endroit où les Nazaréens ont voulu balancer Jésus du haut du précipice, parce qu'ils n'étaient pas très contents de ses activités de Messie, mais ils n'y sont pas parvenus. Mais le nom est resté pour cette montagne, cette montagne du précipice. Et donc, Neville, avec un jeune archéologue qui s'appelle Moshe Stekelis, va dans les années 30 entreprendre une fouille à Djebel Kavzé. Djebel Kavzé, c'est aussi un site qui m'est cher, parce que c'est le site où j'ai pour la première fois fouillé à l'étranger quand j'étais étudiant en maîtrise ou quelque chose comme ça. Et à Kavzé, on va trouver encore des hommes qui ressemblent un peu à ceux de Skoul que je viens de vous montrer, c'est-à-dire des hommes qui ne sont pas vraiment des Néandertaliens, qui ne sont pas vraiment des hommes comme les hommes actuels. Alors Neville correspond avec la France, en particulier il correspond avec Marcelin Boulle, qui est un grand paléontologue français. Il correspond aussi avec Henri Valois, qui a pris la direction de l'IPH. Les fouilles sont en partie financées par l'IPH, et d'ailleurs les fossiles découverts par Neville sont à l'IPH, donc les collections sont rapatriées en France. Et je vous lis ce que Valois écrit à Neville en réponse à ces descriptions. Il lui dit « Les hommes de Palestine seraient donc, dans l'état actuel de nos connaissances du moins, les seuls susceptibles de représenter cette transition entre Homo sapiens et Homo néandertalensis que l'on a tant cherché, d'où leur très grande importance. » Et donc il y a cette idée qui germe à l'époque qu'on a en fait peut-être dans cette région-là du monde eh bien, la transition de l'homme de Néandertal vers l'homme actuel. Vous vous souvenez le schéma de Weidenreich avec le stade archanthropien, paléanthropien et néanthropien. Donc là, on croit avoir mis la main sur ce qui manquait, c'est-à-dire comment on est passé d'un homme de Néandertal à un homme de Cro-Magnon, en gros. Donc c'est toujours ce schéma qui s'impose. Beaucoup plus récemment, donc dans les années... donc moi, je n'ai pas fouillé à Kavzé dans les années 30, hein, mais plutôt plus tard, et donc dans les années 60-70, Bernard van der Merch va reprendre des fouilles à Kavzé. On va être capable de produire des datations. Et donc, ce qui est très important dans ces travaux menés en Israël, c'est qu'on se rend compte quand même qu'on a des formes. Là, c'est le crâne de la femme de Kavzé 9. Vous voyez que c'est un crâne qui est très, très, très moderne, entre guillemets, hein. C'est-à-dire que c'est un, sauf pour un spécialiste, c'est quelque chose qui se différencie à peine du crâne d'un homme ou d'une femme actuelle. Et donc, avec des dates qui tournent autour de 100 000, 90 000, même plus pour Skoul, hein, je vous ai parlé de 130 000, eh bien, quand même, on en vient à se dire, mais comment est-ce possible que l'on ait là des fossiles qui représentent une transition entre l'homme de Néandertal et l'homme de Cro-Magnon, alors que ces fossiles sont plus anciens que la plupart des hommes de Néandertal que l'on connaît en Europe. D'accord ? Et Bernard van der Merch va être un de ceux qui va promouvoir l'idée qu'on a des formes, entre guillemets, modernes, très anciennes, plus anciennes que les Néandertaliens en Palestine. Alors, la fouille aussi livre des choses tout à fait extraordinaires. Dans un contexte, il y a un contexte paléolithique moyen, on a des sépultures assez élaborées, cette fameuse sépulture double, hein, avec cette jeune femme et un enfant enterré à ses pieds. Il y a une autre sépulture très célèbre où on a un enfant qui a été enterré avec une ramure de daim posée sur son corps. Des fouilles très, très... des fossiles très, très... spectaculaire. Et dans le fond, avec ces hommes de Palestine, eh bien, on va voir peu à peu, eh bien, dans le fond, la remise en cause de ce modèle multirégional qui va commencer. Je vous ai dit tout à l'heure que le modèle multirégional avait eu des beaux jours jusque dans les années 80, mais en fait, j'allais dire, le ver était dans le fruit déjà auparavant à cause de ces découvertes au Proche-Orient. Et en particulier, un chercheur américain qui est décédé il n'y a pas si longtemps que ça, qui s'appelait Francis Clark Howell. On le voit ici sur le terrain avec son épouse Betty, et là, plus âgé, quand moi j'ai eu le plaisir et l'honneur de le fréquenter. Donc Clark Howell, qui avait été professeur à l'Université de Chicago, puis de Berkeley, et un de ceux qui a, dans le fond, tranché un peu à propos de ces fossiles du Proche-Orient, en disant, mais écoutez, en fait, quand on regarde ce matériel, on se rend compte qu'il y a vraiment deux groupes. Un groupe qui est un groupe néandertalien, avec en particulier cette femme de Taboun que je vous ai montré tout à l'heure, et puis le matériel de Skoul et de Kavzé, qui ressemble quand même beaucoup à des hommes modernes. Et c'est Clark Howell qui va lancer ce terme de proto-Cro-Magnon pour les désigner. Alors, c'est un terme qui aujourd'hui est tombé en désuétude, mais dans le fond, à travers cette dénomination, Clark Howell, dans le fond, jette les bases, si je peux dire, du modèle Out of Africa, c'est-à-dire l'idée qu'on a des Homo sapiens très proches des hommes actuels qui vivent il y a au moins 100 000 ans ou plus aux côtés des Néandertaliens. Alors, au Proche-Orient, ils les ont probablement, les deux groupes sont probablement remplacés les uns les autres au cours du temps, mais on a une évolution qui est très différente de celle qu'on a en Europe. Et on n'a pas encore fait le lien avec l'Afrique, mais le lien avec l'Afrique va venir justement dans les années 80. Alors, pour finir, je ne veux pas oublier le monde soviétique et juste vous montrer une diapo ou deux pour vous dire que les archéologues et les paléontologues russes ne sont pas restés en reste pendant toute cette période de l'avant-guerre. Donc on a... En Asie centrale en particulier, et dans le sud de la Sibérie, toute une série de sites que l'on connaît maintenant. Mais certains de ces sites ont été découverts donc il y a longtemps et exploités. Et en particulier, ce site de Teshiktash, c'est un site qui se trouve en Ouzbékistan et qui a été fouillé par un anthropologue russe très connu qui s'appelle Alexei Pavlovitch Okladnikov. On aura l'occasion de reparler de lui. Et donc, Okladnikov, dans cette grotte de Teshiktash, découvre en 1938 des restes d'un enfant néandertalien. Et autour de cet enfant néandertalien, il y a des cornes de bouquetin. Donc, bon, à l'époque, on imagine une sépulture avec des offrandes, une espèce de structure. Bon, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est complètement remis en cause. On pense que ces cornes de bouquetin sont là un petit peu par hasard. Mais c'est une découverte qui est très importante parce qu'elle montre donc, elle commence à documenter le fait qu'en dehors de l'Europe, eh bien, on a des Néandertaliens qui se sont répandus jusqu'en Asie centrale. Et dans le fond, avec cette découverte, eh bien, on annonce les découvertes récentes dans l'Altaï russe, non seulement des Denisoviens que j'ai déjà évoqués, mais aussi de Néandertaliens qui se sont étendus jusque dans le sud de la Sibérie au cours du dernier grand interglaciaire. Donc voilà, pour conclure, je voudrais insister sur le fait que, d'abord, une grande partie des découvertes qui ont eu lieu en Asie ont eu lieu avant la Seconde Guerre mondiale. On va avoir, si je peux dire, une nouvelle vague de découvertes, alors qui est une découverte très récente et dont on va discuter dans les semaines qui viennent, hein, avec ces groupes nouveaux qui vont être identifiés. Par certains aspects, ces découvertes d'avant-guerre, elles illustrent ce qui va se passer dans les périodes beaucoup plus récentes et même elles annoncent des débats actuels. Par exemple, les débats à propos des interactions entre néandertaliens et Homo sapiens au Proche-Orient, c'est un débat qui continue toujours. Hein. À l'époque de Francis Clark Howell, il y avait un professeur hongrois qui s'appelait Andor Thomas, qui, à l'époque déjà, proposait l'idée qu'on avait une zone d'hybridation entre néandertaliens et Homo sapiens dans cette région du monde. Et dans le fond, j'allais dire, on est la vérification de ces hypothèses-là encore aujourd'hui. Et puis, par ailleurs, il y a aussi l'influence des modèles, en particulier le modèle multirégional, qui est un modèle qui va, dans le fond, enfin, de mon point de vue, obscurcir la compréhension de l'évolution humaine dans cette partie du monde, en voulant absolument voir une continuité régionale, alors qu'en fait, l'Asie, on va le voir dans la suite de mes exposés, eh bien, c'est plutôt une région qui est à la fois très vaste, très complexe, mais qui reçoit des vagues de peuplements successifs, et en particulier des peuplements anciens qui viennent de l'Afrique. Voilà, je vous remercie pour votre attention.